Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur. Bonjour mon cher Polydomso.
Hi.
Il est au rendez-vous, donc bonjour à toutes et à tous qui nous regardez là sur Twitch. On va échanger tous ensemble et puis ensuite, bien évidemment, le podcast sera disponible sur YouTube. Donc là, on est ensemble pour quasi une heure de masterclass de Polydomso. J'espère que vous êtes prêts. Preview et pronostic XXL de cette UFC 265. Mon cher Polydomso, on commence par les previews de chaque combat et puis à la fin, on fait les petits pronostics, bien évidemment. Donc on va commencer. Yes. N'hésitez pas d'ailleurs à interagir dans l'espace chat si vous avez des questions à poser à Polydomso. On fait combat par combat et il y répond avec plaisir et puis en fonction de ses envies, bien évidemment. Alors, on va commencer par Manel Cap contre Audie Osborne, combat en flyweight, donc qui conclut les premiers prélims de la carte, mon cher Polydomso, avec un combattant que tu apprécies particulièrement.
Ouais, j'apprécie beaucoup Manel Cap et on n'a pas souvent l'occasion d'en parler. On n'aura peut-être plus trop l'occasion d'en parler parce qu'il a fait quand même un peu un faux départ à l'UFC. Il partait avec du vent dans les voiles parce qu'il était champion du Rising. Hein, il avait pris le titre à Kai Asakura, il me semble que c'est ça, que je me trompe pas, par KO. Et j'aime bien parce que c'est un mec... Enfin, il a évolué, quoi. Dans sa première partie de carrière au Rising, il était un peu chien fou, il se lançait... à corps est perdu dans des bagarres et tout. Et puis, en fait, il s'est discipliné. Alors, il a notamment rencontré, au cours de ses combats, il a combattu Kyoji Horiguchi dans le cadre du tournoi Bantam du Rising. Et il s'était fait complètement scouler par Kyoji Horiguchi. Mais bon, c'est quand même un des meilleurs flyweight, un des meilleurs Bantam des deux catégories. Donc, il n'y a pas de honte. Et après, il s'était rediscipliné. Il avait mis un peu plus de technique dans son jeu. Et il avait réussi à vaincre Kai Asakura, qui lui-même avait fait tomber Kyoji Horiguchi. C'est comme ça qu'il a été devenu champion en fait du Rising. Il n'y a même pas eu le temps en fait que Kyoji Horiguchi revienne pour prendre son titre ou que Kai Asakura ait la revanche, puisque il est parti ensuite à l'UFC. À l'UFC, ça s'est pas super bien passé. Je pense que là, il a trop corrigé en fait son tir de combattant chien fou. Il s'est trop discipliné pour le coup. Et je trouve que les deux combats qu'il a perdus, le premier contre Pantoja et le deuxième, je crois, c'est Niklos, il me semble, le nom du gars, c'est un peu plus lui qui les a perdus que ses adversaires qui les ont gagnés. C'est-à-dire que dans les deux combats, enfin de mémoire, hein, parce que je les ai pas revus depuis, mais ce qui semblait évident, c'est qu'il avait la possibilité d'accélérer debout, mais qu'il était vraiment effrayé par la perspective d'être contrôlé au sol par des adversaires qui ont un meilleur grappling que lui, et donc il se déridait qu'à partir du troisième round réellement. Et c'était pas suffisant pour retourner à vapeur. Dans les deux combats, moi, il me semble que c'était un peu ça la dynamique des combats. Donc moi, je pense que là, c'est le combat de la dernière chance pour lui à l'UFC. Il est déjà à deux défaites. Généralement, t'en as pas trois hein, à l'UFC comme ça. Et donc du coup, je pense qu'il va pouvoir lâcher un peu la bride. Parce que là, ça passe ou ça casse. Et en plus de ça, Audie Osborne, bon, c'est un mec qui est un peu un slugger. C'est un peu, il a du pouvoir de KO et tout, mais il a pas le niveau de Pantoja. Il n'a pas la menace en grappling de Pantoja ou de Niklo, donc je pense que là, on va avoir droit à une belle bagarre. Donc c'est ça qui est intéressant là-dedans. Moi, j'ai envie de revoir du prime Manel Cap, là, pour le coup. C'est un peu notre Crazy Charles Bennett à nous, hein, pour les anciens qui connaîtront, quoi.
Ah là 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 là, les puristes, bien évidemment. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce combat-là? Pour l'instant, les gens sont absolument ravis de retrouver Polydomso. Ah, ils sont là, oh, ben oui, avec quand même un sacré commentaire, un Polydomso sera clos à chaque fois, c'est une masterclass. Donc, c'est absolument la folie. Après, oui, non, sinon, c'est des gens qui acquiescent tout ce que tu viens de dire. Pantora est très bon. Voilà, bon. Et bah, à suivre. En tout cas, là, on va commencer avec les préliminaires. Donc là, avec deux noms assez connus de cette catégorie, Karolina Kowalkiewicz et Jessica Penne, donc chez les strawweight féminines, bien évidemment.
C'est intéressant comme combat, là, encore une fois, parce que c'est une combattante qui est un peu sur le déclin, Kowalkiewicz, on peut le dire. Hein, c'est-à-dire, pendant longtemps, c'était un des noms forts de la catégorie. Puis, il y a eu une série de KO, en fait. Notamment, je pense à son dernier KO, c'était contre Andrade, il me semble, qui était quand même très, très violent. Et le problème de Kowalkiewicz, c'est que c'était une combattante très rugueuse, qui n'était pas forcément très technique, mais qui misait énormément sur sa dureté, sur sa capacité à aller en clinch, à resserrer et à rendre le combat difficile pour ses adversaires. On se souvient de son combat contre Rose Namajunas de cette manière, hein, où elle avait gagné contre Rose Namajunas.
Mm-hmm. Elle avait gagné, ouais.
Je crois qu'elle avait gagné justement parce qu'elle avait exploité cette distance que Rose Namajunas n'affectionne guère. Hein. Et donc, en fait, la capacité qu'elle avait à resserrer, en fait, à casser la distance, elle le faisait sur sa résistance physique. Là, elle a commencé à prendre des KO. On sent qu'elle a un peu moins de mordant, en fait, dans son jeu. Et du coup, comme elle peut moins agresser comme elle agressait au préalable, elle est un peu moins efficace. De son côté, Jessica Penney, elle a eu une césure assez longue. C'est une combattante qui est assez complète. J'aurais pas grand-chose à dire sur son jeu. Je vois pas vraiment de choses très marquantes. Elle est complète. Elle est relativement forte debout, relativement forte au sol et relativement forte en lutte. Pas vraiment, mais elle tente des projections, des amenées au sol, des choses qu'on voit plus d'ailleurs en MMA féminin qu'en MMA masculin. Donc voilà, je pense que c'est un peu un combat pour deux combattantes qui sont à peu près dans le même stade de leur carrière. Je pense pas que ça va avoir un énorme enjeu sur la catégorie. Donc c'est intéressant pour ceux qui sont fans de Kowalkiewicz ou qui affectionnent Jessica Penney. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Je serais curieux de voir parce que je pense quand même que Jessica Penney n'a pas le pouvoir de KO qui peut effrayer Kowalkiewicz. Donc à mon avis, on va pouvoir avoir une Kowalkiewicz un peu plus sereine dans l'installation de son jeu habituel. Et si elle arrive à instaurer une phase un peu de clinch et de bagarre avec Jessica Penney, je pense qu'elle est un peu au-dessus. Alors, voilà ce que j'ai à en dire de ce combat.
De toute façon, là, Poidomso, sois rassuré, il n'y a pas de question pour l'instant là-dessus. Une petite remarque, donc possible de mettre l'affiche du combat à chaque fois ou pas pour ceux qui viendront en cours. Ça sera le cas dès la semaine prochaine, lors du prochain live. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est un work in progress, hein, toujours.
Tout à fait.
Mon cher Poidomso, on va passer à l'autre combat entre deux noms assez connus des fans de MMA chez Light Heavyweight, Ed Herman contre Alonzo Menifield.
Alors, là, oui, c'est vrai que c'est des noms connus parce que Ed Herman, ça fait une éternité qu'il combat à l'UFC. Il n'a pas toujours été en Light Heavyweight. Il me semble qu'il a évolué. Peut-être qu'il a été en Middleweight. Je dis peut-être une énorme bêtise, mais de mémoire, hein, c'est ce que je dis.
Oui, il a été en Middleweight, oui.
Il a été en Middleweight, ouais. Donc, c'est un des tauliers. Tu sais, ça fait partie des mecs comme Sam Alvey qui sont. Tu les vois à peu près sur toutes les cartes. Ils sont ubiquitaires, ces mecs-là. Régulièrement, ils seront là. Ed Herman, ce que je peux dire, c'est qu'il est dur au mal. Il a du savoir-faire. Le truc, c'est qu'il prend quand même beaucoup de dommages. Il n'a pas un striking qui est très imperméable. Mais il s'accroche et il peut exploiter en fait certaines opportunités qui se présentent à lui. Le dernier combat où j'ai vu, oui, c'était un peu abusé de lui, mais c'était contre... Luis De Castro, il me semble que c'est son nom. Peut-être je me trompe, mais en gros, il perd le combat par TKO. Néanmoins, l'arbitre interprète mal ce TKO et pense qu'il y a eu une faute. Il replace le combat, en fait. Et là, Ed Herman arrive à gagner par soumission.
Mike Rodriguez.
Mike Rodriguez. Pourquoi Luis De Castro? Je sais pas pourquoi. Mike Rodriguez, ouais, tout à fait. Donc, c'était ça. Et donc, c'était un peu abusé. Pas de bol pour Mike Rodriguez, mais c'était pour vous montrer la résilience et la ténacité d'un mec comme Ed Herman. Il faut jamais sous-estimer ce type de combattant parce que c'est un vétéran, il a de l'expérience, il sait laisser passer l'orage des mecs qui sont plus jeunes et plus explosifs que lui. Alors, ça passe ou ça casse parce que, comme j'ai dit, il prend quand même pas mal de coups. Il peut se faire éteindre par un mec qui a plus d'athlétisme et qui est plus rapide que lui. Je pense notamment à sa défaite contre comment il s'appelle, l'Ukrainien que j'aime bien.
Ibrahimov?
Non, qui a combattu en Kalaev récemment.
Nikita Krylov.
Nikita Krylov, voilà. Il avait pris un head kick contre Nikita Krylov comme ça parce que justement il était resté dans cette distance d'échange qui n'était pas vraiment l'endroit qu'il dominait le mieux. De son côté, Alonzo Menifield, c'est un peu l'inverse, j'ai envie de dire. C'est un peu un mec qui serait un diamant brut quelque part. Il y a des failles dans son jeu. Il est très explosif, très athlétique. Le truc, c'est qu'il n'a pas justement, à mon sens, des combats que j'ai vu de lui, ce savoir-faire. Tu vois, il ne sait pas très bien se gérer et il peut se faire dépasser. Donc, c'est une opposition qui est intéressante pour ça, celle d'un mec qui a clairement des aptitudes physiques là, qui aujourd'hui sont largement supérieures à celles d'Ederman, mais qui n'a pas le savoir-faire, ni la patience, ni la stratégie, ni l'arsenal complet d'un Ederman. Donc en réalité, c'est intéressant parce que moi je vois deux issues à ce qu'on va. Soit Alenzo Menifield vraiment balaye Ederman en un round, ce qui est tout à fait possible, hein, parce que comme je l'ai dit, il y a des trous dans le striking d'Ederman. Soit Ederman arrive à laisser passer l'orage et revient sur la fin et peut gagner par soumission ou par décision contre Alonso Minifield. Donc c'est mine de rien, bon, même si les noms manquent un peu le lustre, et pareil, l'enjeu de ce combat n'est pas énorme pour la catégorie, c'est intéressant quand même pour ça, justement pour voir ce type d'opposition entre le vieux briscard qui a 2-3 tours dans son sac et le mec qui a vraiment des aptitudes physiques énormes et qui peut s'améliorer de combat en combat. Donc pourquoi pas.
On avance petit à petit. Maintenant, place au bantamweight avec Vince Morales contre Draco Rodriguez, mon cher Polydomso.
Alors, j'ai pas grand-chose à dire de ce combat. Je suis navré, mais je connais pas les deux gars en fait. Je pense que là, je vais sortir ma carte Joker parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas eu le temps de voir tout sur ces gars-là. C'est peut-être des mecs très très bons, mais je les connais pas. Donc là, j'utilise mon Joker. Joker pour ce combat.
Joker de Polydomso, mais là, il y a pas de Joker, les gars. Là, on nous parle aussi, oui, de la victoire de Benoît Saint-Denis, bien évidemment, au Brave. Cocorico, Benoît Saint-Denis, pour cette très belle victoire. Là, les gars, si vous arrivez un petit peu avant le début de la main card, donc vers 3h30, vous allez avoir droit à Bobby Green contre Raphaël Fiziev. Et donc, si Bobby Green fait partie des meubles à l'UFC, il y en a un qui, lentement mais sûrement, est en train de gravir les échelons.
Ouais, là, c'est un combat de ouf, ça. Enfin, moi, ça m'intéresse énormément. Déjà, pour voir... Parce que j'aime beaucoup les deux combattants, Raphaël Fiziev et Bobby Green, parce que c'est des gens qui ont un style qui est tellement spécifique dans leur striking, qui est tellement marqué du sport en fait d'où ils proviennent originalement. C'est-à-dire Raphaël Fiziev, ça se lit à 40 km que c'est un maître de Muay Thai, quoi. Ça se voit à sa position, ça se voit à ses maniérismes, à ses techniques qu'il utilise et tout. Il a une garde haute. Le seul combattant comme ça, de mémoire, à l'UFC actuellement, qui a un style aussi défini, aussi spécifique, c'est Mounir Lazis, tu vois, qui lui aussi vient du Muay Thai. Ils ont cette attitude de garde très resserrée. Ils sont assez hauts sur leurs appuis. Ils ont vraiment, on sent que c'est des mecs qui ont fighté en Muay Thai. Et donc, lui, il a vraiment un niveau excellent là-dedans. Il y a plein de techniques qu'il utilise qui sont vraiment intéressantes. Les retraits de buste, notamment, il est connu pour ça. Hein. On se souvient de la vidéo virale qu'il avait fait connaître justement à l'UFC. C'était un combat de Muay Thai d'ailleurs, où, bon, ce qui est assez commun en Muay Thai hein, généralement, mais ça impressionne toujours hein, ce type de move. Il a des combinaisons en points très très dangereuses où il shift en attaquant. Le KO qu'il a mis à Renato Moicano, c'est comme ça qu'il le met, et il l'étend sur ça, alors que Renato Moicano, c'est quand même un mec très 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 dangereux et très très difficile à battre, hein. Faut pas se laisser abuser par le palmarès, parce que Moicano, jusqu'à présent, il avait perdu que contre des mecs vraiment vraiment installés. Donc le fait que Fiziev l'éteigne comme ça, c'est pas anodin, ça marque qu'il est vraiment bon. Et Fiziev, de son côté, pareil, il a battu, c'était qui d'autre qu'il a battu avant, juste avant, il est connu, aïe 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 aïe, les noms, c'est un britannique, je sais pas son nom.
On est dessus, Polydomso, on est sur le coup.
Aïe aïe aïe, j'aurais dû faire préparer mes petites
fiches. Ah oui, énormes. Marc Diakis, ben oui.
Eh oui, Diakis, ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc il est vraiment, parce que Diakis aussi, il est vraiment bon, et il l'avait schoolé notamment avec ses kicks et l'utilisation des middle et des low kicks qui avaient été déterminantes dans ce combat. Donc il a vraiment le whole package en stand-up. Il est vraiment bon. Après, je trouve qu'en, reste à savoir, c'est toujours la question qu'on a face à un profil complet comme, enfin, un profil plutôt spécifique comme Raphaël Fiziev. Quelle est la qualité de son jeu dans les autres domaines du combat? Pour le moment, ça n'a pas été réellement exploité. La seule défaite qu'il a eue, c'était plus une défaite par... il s'était fait zapper par un coup de pierre tourné en début de combat. Enfin, c'est un truc qui arrive, quoi. Ça, c'est pas... À mon avis, on peut pas en tirer de grandes conclusions. On peut juste annoncer en fait que en réalité, il a un peu aussi le défaut des combattants de Muay Thai. Il a besoin de s'installer dans un rythme. C'est un peu un diesel Fiziev. Le temps de prendre ses marques, de prendre sa distance et tout. Et à mon avis, si tu le prends de vitesse, ça peut être une stratégie à utiliser contre lui. Même debout, tu peux le prendre de vitesse, je pense, dans les premiers rounds. surtout dans les premiers instants, en fait, le temps qu'il installe son groove, qu'il installe sa distance et tout. Pour ce qui est de Bobby Green, parce que là j'ai parlé longuement de Raphaël Fiziev, moi j'aime beaucoup Bobby Green parce que bon, lui pour le coup c'est beaucoup plus un vétéran. Il est là depuis un certain temps, il a rencontré plein de mecs, notamment comment il s'appelle, Edson Barbosa et tout. Enfin, il a des combats contre plein de gens.
Dustin Poirier, on nous dit dans le chat aussi. Hein.
Dustin Poirier, tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça, avec Dustin Poirier, il partage l'utilisation de la garde en shoulder roll. Qui est un des, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Bobby Green. Alors, il a moins de succès que Dustin Poirier avec ça, mais c'est un des premiers de mémoire à l'UFC à avoir fait une utilisation extensive de cette défense-là, donc le shoulder roll, le roulement d'épaule. Mais c'est plus pour vous donner une image, ceux qui regardaient et qui ne comprennent pas ce que je dis, mais c'est plus la technique de Phil Ischel, façon Floyd Mayweather, façon James Toney, façon qui d'autre encore, Archie Moore pour les anciens. Enfin, c'est le fait de se protéger avec son épaule et de rouler avec les coups de l'adversaire pour revenir. C'est quelque chose qu'on voyait pas en fait, on voyait pas ça du tout quand Bobby Green l'a utilisé pour la première fois. Enfin, doit y avoir des combattants qui ont dû le faire avant, mais à ce niveau-là, ça se voyait pas en fait. Et depuis, c'est en train de faire son chemin parce que Dustin Poirier utilise cette méthode défensive. Sean Strickland, qui a combattu ce week-end, utilise cette méthode défensive aussi également. Mats Burnell aussi, qui a combattu ce week-end. Enfin, c'est quelque chose qui devient un peu plus commun parce que c'est une défense qui est efficace en réalité en MMA. Où on ne peut pas avoir une protection complète avec les petits gants. On ne peut pas faire une protection en garde haute. C'est moins efficace que si tu as des gants de kickboxing qui te permettent de vraiment te couvrir totalement le visage. Là, de bouger avec les coups, avec l'épaule, de se protéger et de rester dans les échanges, ça offre je pense, un bon compromis. Et je pense que c'est des façons de se protéger qui vont se démocratiser en MMA parce que c'est vraiment efficace. Regardez Dustin Poirier dans son combat contre Max Holloway. Il y a énormément de combats de coups qui sont bloqués ou détournés. Et ça permet également à Dustin Poirier de rester dans les échanges et de pouvoir contrer efficacement. Donc ça, c'est quelque chose qui fait bien. Le problème de Bobby Green, pendant longtemps, je trouve que ça a été... Alors moins dernièrement, je trouve qu'il a un peu mis un peu plus d'agression dans son jeu, mais pendant longtemps, il a perdu des combats parce qu'en fait, il arrivait à bien se défendre, mais il faisait rien derrière. C'est-à-dire qu'il esquivait les coups, il roulait avec les coups, et au lieu de contrer, bah, il ne se passait pas grand-chose, en fait. Et il y a beaucoup de combats qu'il a perdu à décision. Comme ça, par inactivité, en fait. Et bon, là, récemment, il semble mettre un peu plus d'agressivité, mais le problème, c'est qu'il vieillit aussi. Donc, il est dans un... Je pense, dans une dynamique qui est un peu intéressante parce que sa technique s'est améliorée et son attitude est meilleure, je pense. Néanmoins, son athlétisme et son... On va dire sa résistance physique sont en train de, je pense, de diminuer progressivement parce que ça fait un moment qu'il est là. Donc voilà, donc il a pas beaucoup de combats encore. Enfin, il a, je pense qu'il a, est-ce qu'il a encore l'énergie pour un run, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'il l'a encore, faut pas faire d'erreur. Et là, le combat contre Fiziev, à mon sens, dans le matchmaking, c'est plus pour faire briller Fiziev que pour faire briller Bobby Green. En plus de ça, je pense que en termes de match-up, c'est un combat qui favorise plus Fiziev pour le coup, parce que tout ce que je viens de dire sur la défense en filichelle, c'est bien quand on est contre des gens qui utilisent beaucoup leur boxe anglaise et qui utilisent beaucoup de techniques en direct. Le problème, c'est que Fiziev, c'est un très très bon kicker. Donc quelque part, il peut exploiter ça, en fait, cette défense, parce que tant que tu te protèges, tu fais des mouvements, c'est bien, mais tu as besoin de tes jambes pour faire ça. Et donc, à mon avis, Fiziev, il va pas lui falloir longtemps pour décoder, en fait, cette défense-là, qui est peut-être efficace contre le striker lambda de l'UFC qui fait un peu de boxe, un peu de kick, mais qui est pas vraiment un knack-moi vraiment précis. Mais je pense que contre un mec comme Fiziev, il va vite remarquer en fait quelles sont les failles dans ce type de défense. Donc intéressant à regarder pour le style vraiment défini des deux combattants. C'est vraiment intéressant aussi à regarder pour la méthode défensive de Bobby Green, même si elle sera peut-être pas extrêmement pertinente dans sa rencontre contre Fiziev. Mais c'est cool parce que c'est pour ça que j'aime le MMA aussi. C'est parce que c'est des saveurs particulières. On trouve d'autres façons de faire. Il n'y a pas de méthode parfaite et chacun apporte une petite pièce au puzzle. Donc, nous avons le striking vraiment pur Muay Thai de Fiziev, ça c'est super intéressant. Et on a des méthodes de défense qui sont un peu old school boxing, qui sont très intéressantes aussi. Et je pense qu'on va être amené à en voir de plus en plus.
On a une petite question, enfin une petite remarque dans le chat, Poidomso, mis au défi, Poidomso, donc de G-Combe. Fiziev a les meilleurs middle kicks de la division.
Dans la division, bah honnêtement, ouais, c'est pas délirant comme remarque parce que c'est vrai qu'en plus il les fait des deux côtés, il switch très très vite aussi. C'est un truc que j'ai pas évoqué, mais il arme très très vite ses coups. Éventuellement, quelqu'un qui avait peut-être de très bons kicks dans la division, un peu de cette manière-là, c'était Barbossa. Mais maintenant, Barbossa est en featherweight, je dis pas de bêtises, il a changé de
Complètement.
catégorie. Et éventuellement, un autre gars, comme ça de mémoire, parce qu'il y a beaucoup de noms, peut-être qu'il y en a qui m'échappent, mais un autre gars qui a d'excellents middle kicks, c'est le gars qui a battu Mateusz Gamrot dans son premier combat à l'UFC. J'ai oublié son nom, c'est un mec qui s'entraîne avec
Avec Ramzat Chimaev, oui.
Ramzat Chimaev, c'est un géorgien.
Qui a un nom
Et
très
pareil,
compliqué, ouais, à
ouais, lui,
prononcer.
Kouteladze, enfin, je sais plus, bref, il est vraiment bon, je vous encourage à regarder. Alors, il n'a pas combattu depuis son combat contre Gamrot, mais je serais intéressé de voir ce qu'il va donner parce qu'il est bon, même si à mon sens il avait perdu contre Gamrot, je trouve que c'était une décision très très litigieuse. Honnêtement, d'ailleurs, lui-même l'avait reconnu à la fin du combat. Néanmoins, ce qu'il avait montré, c'était très intéressant parce que Gamrot, là pour le coup, depuis ce combat, il est déjà à 2 victoires et 3 victoires ou 2 victoires, deux
Deux
victoires
victoires.
très très rapide. Et c'est vraiment un très très bon Gamrot. Donc faire ce qu'il a fait contre un mec comme Gamrot, ça vaut le coup. Et je me souviens notamment de ses kicks qui avaient très bien marché contre Gamrot.
Et ben voilà, mon cher Polydome, soit avant de passer à la main card, il va voilà, reprendre des forces. On va lancer le générique spécial semaine UFC 265. Et ensuite, c'est la main card, les gars. On a mis les petits plats dans les grands.
Welcome.
Et voilà, on est de retour, les gars. Alors, on est reparti avec le début de la main card. Donc là, vous êtes à 4h du matin sur RMC Sport. Vous êtes tranquille. On nous demande, Polydomso, tiens, 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 il y a quelqu'un qui demande quelque chose. Pourquoi pas, Guillaume, il faut absolument faire une watch party sur le Twitch pour ceux qui paient le pay-per-view. Ce serait incroyable. Oh là là.
Une quoi? Une quoi? Une
Une
quoi?
watch party, bah en fait, en gros, qu'on le regarde tous ensemble, l'UFC 265. Mais bon, avec Polydomso, on sera présent. Peut-être main et co-main, mais les gars, faut qu'on se repose un petit peu. Hein. Faire toute la nuit comme ça, en étant au taquet, c'est
Ah, je
compliqué.
suis trop vieux pour ces conneries. Hein. Mais non, mais l'idée me plaît assez. L'idée me plaît assez.
Ah là là, en tout cas, tout le monde valide ce magnifique générique, ça fait en tout cas plaisir. C'est Big Ben qui l'a fait, il s'est donné beaucoup de mal pour ça. Alors c'est parti. Donc Polydomso, début de la main card. Song Yadong contre Casey Kenny en bantamweight, deux noms bien connus de la catégorie, deux combattants avec un certain potentiel. C'est parti, on met une petite pièce dans la machine Polydomso qui prépare sa masterclass.
Je peux y aller?
Ah bah oui, ah bah évidemment, évidemment, évidemment.
Je pose
Attachez
ma
vos
question.
ceintures, c'est parti.
Ah, c'est deux prospects, enfin, même pas, est-ce qu'on peut dire des prospects? Les mecs sont dans le top 10, donc je sais même pas si on peut dire prospects, tu vois, à ce niveau-là, mais c'est des mecs qui, à mon avis, vont compter dans la catégorie. Qui ont. Est-ce qu'ils reviennent d'une défaite? Je crois que Song Yadong a perdu contre Kyler Phillips récemment, c'était son dernier combat, et Casey Kenny, je crois que son dernier combat, c'était perdu contre Dominic Cruz.
C'est ça.
Donc c'est plutôt. Enfin, je veux dire, ils sont bien, bien dans la catégorie. Moi, j'aime bien les deux. Ils présentent tous les deux un jeu qui est très intéressant. Alors, on va procéder par combattant. Casey Kenny, ce que j'aime bien, c'est un gaucher. Il est un peu dans cette traînée, tu vois, des mecs qui suivent un peu le modèle Conor McGregor, Tenshin Nasukawa, comment il s'appelle, Sean O'Malley, enfin des gauchers un peu dans ce modèle-là. Ils ont un peu les mêmes techniques. Alors bien sûr, ils ont pas la même façon de combattre, mais c'est la même logique en fait, c'est les mêmes stratégies qu'ils cherchent à employer. Casey Kenny, il mise beaucoup en fait sur créer la réaction chez l'adversaire avec un jeu en kick qu'il utilise sur le côté ouvert. Comme il est gaucher, il est très très bon contre des, enfin gaucher. Il est fausse patte et il est particulièrement efficace contre des mecs qui sont en garde orthodoxe parce que c'est sur son côté ouvert. Et la façon dont il procède généralement, c'est qu'il va installer très rapidement un jeu de feinte et un jeu de double voire triple attaque sur ses techniques arrière, c'est-à-dire qu'il va soit envoyer un middle kick, soit un low kick, soit un direct du bras arrière, et en fait le setup, c'est-à-dire le mouvement juste qui précède en fait ces techniques sera le même. Du coup, ça va perdre l'adversaire, et c'est cette, enfin l'adversaire ne saura plus quelle va être la technique qui va arriver quand Casey Kenny déclenche. Et ensuite, au fur et à mesure où son jeu se déroule, il attend les réactions de l'adversaire pour contrer du bras arrière. Un autre combattant qui fait ça aussi, c'est Saladin Parnasse. Il y en a plusieurs qui sont dans cette stratégie de gaucher. En fait, c'est un modèle. En fait, on pourrait même dire que c'est un modèle de un style de combat qui est de plus en plus fréquent là encore une fois, et qui fonctionne vraiment sur créer des attentes, déjouer les attentes de l'adversaire. C'est là où on voit que le jeu a gagné en finesse en fait, notamment debout. Moi, ça m'intéresse parce que, enfin, c'est un secret pour personne, mais initialement, je regardais beaucoup le kickboxing et beaucoup la boxe, et de voir que le MMA évolue dans cette direction-là, pour moi, je trouve ça très intéressant. Donc, Casey Kenny, il a vraiment ce jeu-là, et il est très très efficace quand on rentre dans ce jeu-là. C'est-à-dire quand on est statique face à lui et qu'on est orthodoxe, généralement c'est mal barré pour nous. Hein. Enfin, vraiment, c'est là où il contrôle le mieux. Là où il a un peu plus de mal, c'est quand l'adversaire ne joue pas selon ses règles, qui change de garde ou qui change de direction, qui reste pas en face de lui. Et je pense notamment à son combat contre Dominic Cruz, qui s'était achevé par une split décision de mémoire. Mais moi, après, faudra me corriger. Hein. Peut-être que je parle là encore parce que je l'ai pas revu le combat depuis. Mais
décision
dans ma tête,
partagée, oui, Pauline Thompson.
Décision partagée, mais pour moi, ça méritait pas une décision partagée. En fait, ça fait partie de ces combats où, en gros, à mon avis, il y a un juge qui a chié dans la colle parce que Casey Kenny avançait pendant tout le combat. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que tu gagnes. Hein. Quand tu avances, si tu prends plus de coups que l'adversaire, c'est juste que tu mets pas la pression, tu détermines juste le rythme auquel tu te fais balader, quoi. C'est tout, tu vois. Et je trouve qu'hormis ses techniques en low kick, il n'avait pas vraiment la solution face à Dominic Cruz. Il n'arrivait pas à installer son jeu parce qu'en fait, il y a plusieurs trucs qui lui manquent. Je pense qu'il n'arrive pas vraiment à s'adapter. Quand on change, par exemple, de garde, sa technique est un peu moins efficace parce que justement, on lui ferme le côté ouvert qui lui permet, en fait, généralement de dérouler son jeu. Et au-delà de ça, il lui manque un peu les techniques en jab et les techniques du bras avant. Son bras avant, généralement, cherche à combattre le bras avant de l'adversaire ou vraiment à mesurer la distance. En ça, ça ressemble vraiment à Conor McGregor. Conor McGregor, on voit par exemple qu'il a du mal à combattre les gauchers comme lui, notamment son combat contre ses trois combats, mais disons plutôt ses deux défaites contre Dustin Poirier, parce que justement, il lui manque ce savoir-faire du bras avant quand il est dans une garde qui n'est plus une garde ouverte, mais une garde, on va dire, comme s'il était orthodoxe, quoi. Donc, c'est intéressant pour ça. Casey Kenny, je trouve qu'il a un style vraiment qui marche très bien quand on rentre dans son jeu. Après, ça marche un peu moins bien quand on rentre pas dans son jeu. Les deux personnes qui l'ont battu, soit l'ont battu en utilisant un style de lutte très, 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 très agressif. Ça, c'est Dvashvili qui l'a battu comme ça. Bon, tout le monde n'a pas le niveau en lutte de Dvashvili, d'autant que Casey Kenny est un champion de judo, donc il est assez difficile à mettre au sol. Il a plutôt une bonne technique dans la défense. Mais moi, c'est surtout plutôt son combat contre Dominic Cruz qui était intéressant. Mais là, encore une fois, peu de gens aussi ont le savoir-faire de Dominic Cruz. Mais on en voit de plus en plus dans cette catégorie. Je rappelle quand même qu'on a eu un superbe combat il y a quelques semaines, TJ Dillashaw contre Corey
Sandhagen.
Donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et à mon avis, Casey Kenny, s'il veut vraiment évoluer dans cette catégorie, il va falloir qu'il commence à mon avis s'adapter à ça, parce qu'il n'aura pas tout le temps en face de lui des mecs en orthodoxe qui vont rentrer en fait dans son jeu. En face de lui, il y a Sangadong qui est assez jeune, mais qui a quand même de l'expérience. Là, il en est à son quatrième combat, je crois, à l'UFC, ou peut-être même plus. Et il est vraiment bon, très très bon. Mais pour le coup, il rentre un peu dans le portrait robot des gens qui rentrent un peu dans le...
Ça va être son huitième combat à l'UFC, Pauly Domso.
Huitième combat, ouais, bah voilà, je suis complètement à côté de la plaque, le Pauly Domso. Mais c'est parce que... Enfin, c'est assez dingue, parce que je sais plus quel âge il a, mais il est vraiment jeune. Il a commencé, je crois,
23 ans.
Ouais, voilà, c'est délirant, Sangadong, il est délirant. Il a un physique de... une physicalité absolument exceptionnelle. Il est très explosif, très athlétique, il est très très jeune et il commence à avoir beaucoup d'expérience à l'UFC. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment parler de prospect, tu vois. Je disais prospect, mais je pense que c'est un abus de langage en fait. C'est juste qu'ils sont jeunes tous les deux, mais ils ont déjà pas mal d'expérience. Donc Sangyadong, c'est un orthodoxe. Il est, je pense, assez classique dans sa façon de combattre, hein. Il est vraiment très complet. Il n'y a pas de domaine où il est mauvais. Il est bon au sol, il est bon en lutte. Il est très athlétique, il est très très rapide au niveau de ses mains. Il a des très bonnes combinaisons, très très rapides au niveau des points. Il a du pouvoir de KO. Mais, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit mais dans son combat contre Casey Kenny, c'est que, à mon sens, je trouve qu'il est trop trop scolaire. Alors bien sûr, il a les techniques de, tu sais, un peu tournoyantes. Il fait des coups de pierre tournés, il fait des genoux sautés, mais c'est pas tellement ça en fait. Quand je dis trop scolaire, on peut avoir des techniques de, je sais pas, de kung-fu et être scolaire dans sa façon de striker. C'est par exemple, je trouve que ça, il utilise très peu les feintes. Il est plus, tu vois, dans la réaction que dans la construction d'un jeu. Et je pense que ça rentre très bien en fait dans le jeu de Casey Kenny, parce que Casey Kenny, quand il arrive à installer ses feintes et que tu sais plus en fait ce qui va venir entre le middle kick, le bras arrière ou le low kick, c'est là où franchement il a son groove. Et Sang-Yadong, il est très très explosif, très rapide, peut très bien sécher Kenny sur un contre, hein. Ça, c'est une forte possibilité, hein. Il a des KO comme ça, notamment un coup, je me souviens plus duquel, mais sur un où il face plante un mec sur un kick où il rentre vraiment au moment où le gars balance son kick. Je crois que c'était Perez, mais je suis plus sûr des noms. Mais il a cette capacité, Sang-Yadong, quand il voit l'ouverture, de vraiment s'engouffrer dans la brèche. Néanmoins, quand on confuse un peu, quand on crée un peu de confusion sur le jeu et que tu masques un peu ses attentes, justement cette capacité de surréaction et de surréaction athlétique, ça peut être exploité à son encontre. Je pense. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que je pense qu'en termes d'athlétisme et en termes de rapidité et même de jeu complet, je pense que Sang-Yadong est supérieur à Casey Kenny. Mais Casey Kenny, il a une façon de striker qui est à mon avis plus stratège que Sang-Yadong. Il cherche plus à construire, à créer ses opportunités, à jouer en fait avec l'attention de l'adversaire. Donc c'est pour ça que là, pour le coup, j'aurais tendance à dire que le match-up favorise un peu plus Casey Kenny.
Sang-Yadong contre Alejandro Pérez le 6 juillet 2019, mon cher Poinomso. La sueur était présente à cet événement d'ailleurs, donc c'était John Jones contre Thiago Santos en main event. On avance dans cette main card avec maintenant un choc entre deux habitués de cette catégorie, mon cher Poinomso, tout simplement.
La revanche que l'on attend tous. Hein.
Attention, attention. Entre Angela Hill et Teixeira Torres, bon... Bah, que dire.
Non mais en plus je dis ça, et en plus moi j'apprécie beaucoup regarder Angela Hill, la regarder combattre, hein, j'entends, comprenez-moi bien évidemment.
Oh là 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 là.
En plus de ça, je la trouve plutôt mignonne, donc il y a pas de mal, il y a pas de mauvaise pensée, hein. Mais je trouve qu'elle est très intéressante à voir combattre, parce que justement ce que je disais à propos de Casey Kenny, de la construction d'un jeu en striking. Je trouve que c'est une des rares filles qui le fait. Mais non, mais c'est vrai, parce que...
Commentaire de Flanté94, comprenez-le bien.
Ouais, bah forcément, comprenne qui pourra, ouais. Non, mais notamment, pour les fins connaisseurs, elle avait fait une série de photos avec Jessica Penney. Je laisse ça en suspens, vous ferez vos recherches et vous comprendrez ce que je veux dire. Mais néanmoins, au-delà de ça, c'est une des rares nanas qui a... Je crois qu'elle a un bilan négatif à l'UFC, il me semble. Elle a 8 victoires et 9 défaites. Elle gagne un combat, elle en perd un, elle gagne un combat, elle en perd un. Mais elle reste toujours compétitive. Même dans les combats qu'elle perd, je crois que son dernier combat contre Claudia Gadella, où pareil, franchement, ça m'aurait pas choqué que ça passe de son côté. Elle a cette capacité, elle construit son jeu. En fait, ce qui lui manque à Angela Hill, c'est, bon, déjà, je trouve qu'elle n'est pas nécessairement très complète. Tu peux la zapper un peu en lutte et en grappling. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une question de physicalité. Elle a pas vraiment de punch et elle est pas très très forte pour la catégorie. Et je pense qu'il y a beaucoup de combattantes qui l'ont battue juste en prenant des coups et en se faisant doubler en striking, mais en l'accrochant et en la rudoyant un petit peu. Et d'ailleurs, de mémoire, je crois que son premier combat contre Teixeira Torres, c'était ça qui s'est passé. Bon, pareil, alors là, je l'ai pas vu depuis des années. Enfin, vous comprendrez bien que même si j'apprécie beaucoup Angela Hill, je re-regarde pas forcément ses combats. Mais c'est intéressant parce que justement, elle a cette capacité de construction, de créer des pièges. Il y a des trucs qu'elle fait que j'aime bien. C'est, par exemple, tu vois, elle va faire une esquive sur un côté, elle va changer de garde, elle va revenir avec le crochet. C'est des trucs que tu vois même pas chez les mecs, tu vois. Ça, donc, elle a des tricks et des constructions qui sont vraiment très intéressants à regarder. Et d'autant plus chez les combattantes féminines, parce que il y a un écueil. Bon, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est vrai que on ironise souvent sur les combattantes féminines. Alors il y en a qui sont excellentes, hein, et qui peuvent en inspirer même au niveau des mecs, hein. Ça, il y a pas de doute. Mais il y a beaucoup de nanas qui combattent, et surtout en striking, t'as vraiment l'impression qu'elles font du pao, en fait. C'est-à-dire qu'elles font des combinaisons qu'elles ont apprises par cœur, selon la situation, mais que, enfin, tu vois, c'est pas une réaction ou un truc par rapport à l'adversaire, quoi. C'est juste, elle a appris à faire un, deux crochets, elle va faire un, deux crochets. Et c'est pour ça, enfin, notamment le dernier combat, là, qu'on a vu, là, Macy Barber contre Maverick, mais c'était horrible à regarder à cause de ça, tu vois, parce que justement, faisait quasiment du shadowboxing à 2 mètres de distance, quoi. Et ça, c'est, et il y en a plein des nanas comme ça. Il y en a plein des nanas qui combattent de cette manière-là. Et, pour le coup, quand une meuf ne le fait pas, bah, il faut le souligner. Angela Hill, pour le coup, c'est ce qu'elle fait debout. Le problème, c'est qu'il manque certains trucs dans son jeu. En fait, il manque, principalement, elle pourrait être très très bonne si elle avait un peu plus de mordant dans ses frappes. Et je pense qu'elle, honnêtement, hein, je pense qu'elle peut battre Tessia Torres, mais elle peut la battre. Mais je pense que c'est Tessia Torres qui va gagner parce qu'à mon avis, on va avoir droit à une redite du premier combat. C'est-à-dire que je pense que dans la distance de striking, ça va être elle qui va dominer. Mais elle fera pas suffisamment mal à Tessia Torres. Et donc Tessia Torres, qui a un jeu un peu plus complet, un peu plus rude, un peu plus rugueux, va gagner la décision, je pense, hein. Bon, j'avance sur mon prono, mais je pense que c'est ça qui va se produire. Et ça m'embête parce que je pense que c'est dommage. Angela Hill, il lui manque peu de choses pour être vraiment efficace. Et je pense que en termes de potentiel, si elle avait résolu ce truc-là, si elle avait un peu plus de chaos, de pouvoir de chaos, elle aurait pu aller, je pense, plus loin que Tessia Torres et que beaucoup de nanas. Donc voilà. Donc je suis curieux quand même du combat. C'est intéressant quand même.
Polydomso, curieux, intrigué. Petit commentaire de Jacques. C'est à ce genre d'anecdote que l'on voit que Polydomso est un expert. Oh là 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 là. Couverne de louanges, notre cher Polydomso. On enchaîne avec un choc particulièrement intéressant chez les welterweight entre le numéro 5 et le numéro 6. Chiesa, numéro 5, Michael Chiesa. Numéro 6, Vicente Luque. Donc deux gars qui se rapprochent lentement mais sûrement de title shot. Deux gars qui n'ont toujours pas affronté Kamaru Usman. Et deux mecs qui sont... qui reste sur des victoires, donc ça peut être particulièrement intéressant tout ça, mon cher Polydomso.
Bah ouais, non mais carrément. Bon, après je me fais pas trop d'illusions, je pense que là pour choper un title shot avec Kamaru Usman, ils vont devoir encore un petit peu ramer les deux, mais c'est intéressant parce que comme tu l'as dit, ils ont la particularité d'appartenir au top 10 sans avoir été battu par Kamaru Usman, ce qui devient une incongruité dans cette catégorie, il faut le dire. Et au-delà de ça, ils sont sur tous les deux une bonne lignée de victoires, hein. Je pense que Chiesa, il est sur 4 victoires d'affilée D'ailleurs il me semble qu'il est invaincu en welterweight.
Complètement invaincu en welterweight, qui est ça.
Et Luque, 3 victoires, dont un très très bon combat. Je pense le dernier combat intéressant de Tyrone Woodley, où franchement, Tyrone Woodley m'a surpris. Je pensais qu'il allait nous faire du classique Tyrone Woodley, mais il a décidé YOLO, c'est peut-être mon dernier combat de l'UFC, j'y vais à fond, et c'était super intéressant. Donc, ouais, on a... Là, c'est des combattants qui sont très intéressants à regarder, ça c'est sûr. Michael Chiesa, parce que c'est un... Il se transforme en lutteur grappleur étouffant. Et c'est un modèle qui est toujours intéressant parce qu'il a la capacité de le faire. Alors, pendant longtemps, c'était son style. Hein. Il a jamais été très très bon debout et ça a toujours été un grappleur. Mais il s'épuisait, il se tuait en fait à rester en lightweight. Je pense que depuis qu'il est monté en welterweight, il est plus à l'aise. Le cutting est moins rude et donc il peut plus faire jouer sa physicalité qu'il ne pouvait le faire en lightweight. Donc c'est très intéressant. Il étouffe les gens. Alors après, c'est intéressant pour moi. Qui aime bien les styles comme ça, très définis, tu vois, c'est un peu rétiersécuteur. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Après, je vais pas mentir, je pense que les gens qui sont un peu plus, qui sont moins spécialisés, qui sont moins des consommateurs avertis de MMA vont peut-être s'ennuyer en regardant Michael Chiesa parce que c'est pas un mec qui recherche activement la finition et qui recherche activement à terminer le combat. C'est plus un combattant de contrôle et ça, je dis ça de manière la plus polie qui soit. D'autres personnes pourraient dire que c'est un blanket wrestler. Bon, j'irai pas jusque là parce qu'il cherche quand même à améliorer sa position et tout, donc on va pas dire ça, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le profil le plus intéressant à regarder, c'est pour ça que je pense qu'il va ramer avant d'avoir un title shot. Mais là, il est contre de toute façon un adversaire qui lui pour le coup assure le spectacle à chaque fois. Vicente Luque, j'adore ce mec parce que c'est rare que je dis que j'apprécie quelqu'un, mais j'adore cette façon de combattre parce qu'à mon avis, c'est complètement archaïque et complètement
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Obsolète aujourd'hui, enfin obsolète non, mais d'une autre époque en fait. Aujourd'hui, dans une ère où on a des sportifs de plus en plus professionnels qui cherchent de plus en plus à gagner, tu vois, en termes de points, en termes de je gagne un round, je gagne un autre round et j'essaie de maximiser mes chances de gagner. Vicente Luque, il n'est pas du tout comme ça. Lui, c'est je vais te mettre KO, quoi. Je vais te mettre KO et je vais prendre 3 coups dans la tête pour en mettre un. Donc, c'est super. Enfin, je veux dire, c'est assez rare de voir des mecs qui ont cette mentalité encore aujourd'hui. Donc, rien que pour ça, il faut regarder Vicente Luque. Et au-delà de ça, même si c'est un bagarreur, c'est un slugger et qu'il a un gros menton et qu'il a du pouvoir de KO, il est aussi très technique. Hein. C'est contre du bras avant et du bras arrière, quand il est son contre du crochet du bras avant, c'est une merveille. Honnêtement, si tu sais, t'as des mecs comme ça qui ont masterisé un move. Tu sens qu'ils ont dû le répéter un million de fois. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas d'espace, tu vois. Quand il envoie son crochet, il y a l'épaule et tout. Son menton, il est imbriqué et c'est toujours au bon timing et c'est au-dessus de l'épaule de l'adversaire ou genre pile sur le menton et d'une précision incroyable. C'est magnifique à regarder. C'est magnifique à regarder. Donc, pour cette raison, je pense que ça va être intéressant parce que, enfin, je me répète, de toute façon, tous ces combats sont intéressants, mais ça va être passionnant de voir cette opposition parce qu'on va voir toute une phase où debout et sur l'approche, Michael Chiesa, il va pas avoir droit à l'erreur, hein, parce que s'il déconne, s'il est un peu paresseux sur la façon dont il va resserrer la distance, à mon avis, c'est dodo direct, hein, face à Vicente Luque. Ensuite, après, une fois que le clinch est installé, qu'on est contre la cage, je pense que c'est une confrontation qui va plus avantager Michael Chiesa, même si, il faut pas oublier que Vicente Luque a comme partenaire d'entraînement Gilbert Burns, et qui a l'habitude, à mon avis, de se parer de cette manière-là avec quelqu'un qui a aussi un gros jeu en grappling et un gros jeu en lutte. Donc, franchement, ça peut être cool. Franchement, ça peut être cool.
Le ton est donné. Bien maintenant, on va passer au co-main event. José Aldo contre Pedro Munhoz chez Bantamweight. Pour celles et ceux qui se réveillent un petit peu tard, Amanda Nunes n'est pas présente sur la carte, positif au coronavirus. La Guo ne défendra pas sa ceinture bantam face à Juliana Peña lors de l'UFC 265. Alors donc, José Aldo contre Pedro Munhoz. José Aldo toujours en quête d'un deuxième titre après la ceinture featherweight. Mon cher Poi Domso, c'est parti.
C'est un combat pour le coup. Bon, moi, je vais jouer carte sur table. À chaque fois que je parle d'Aldo, j'ai un petit problème d'objectivité parce que j'adore ce mec, quoi, pour le coup. Et ma philosophie, c'est de dire quand on a un biais de préférence ou quand on est fan de quelqu'un, il faut l'annoncer tout de suite. Moi, je suis fan d'Aldo et donc j'essaie toujours au mieux de rester objectif le concernant. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que les gens pourraient penser, je suis plus sévère avec Aldo qu'avec les autres combattants. Parce que justement, je m'efforce au maximum de réfréner mes élans de fan. Et donc, pour moi, j'y crois plus trop en fait à Aldo dans cette catégorie. Je pense que c'était un peu son champ du cygne. Même s'il m'a fait grave plaisir, hein, son combat contre Peter Yan, moi il m'a grave donné de l'émotion, hein. J'ai surkiffé parce qu'on a revu un prime Aldo. Bon, c'était contre Yan, c'est un prodige. C'est là où il y a des limites, c'est-à-dire que là Aldo il avait combattu de la meilleure des manières. C'était un des meilleurs Aldo qu'on n'avait pas vu depuis des années, on l'avait pas vu avoir un jeu aussi complet avec son striking, remettre en place ses low kicks et tout. Il a tout fait comme il fallait. Sauf qu'il a pris un mur parce qu'en face de lui, c'est Peter Yan et le mec est juste imbattable, quoi, dans la catégorie. Donc c'est pour ça que j'y crois pas trop parce que la catégorie devient surchargée en prospects avec des mecs vraiment bons. Regardez Corey Sandhagen, TJ Dillashaw, le combat était oufissime. Et je pense que tu vois, il y a trop de mecs et trop de mecs jeunes et talentueux en fait. Néanmoins, j'aime bien ce qu'il fait parce que il en a encore sous le coude, quoi. Il n'est pas non complètement largué. Il a un jeu qui est très très complet. Moi, j'ai bien aimé, notamment, même si c'était un peu plus du contrôle, mais ce qu'il a fait contre Chito Vera, d'amener au sol et de contrôler Chito Vera et vraiment de prendre le dos et tout ça. Donc, c'était peut-être moins excitant pour les gens qui voulaient plus du chaos, plus de la baston. Mais en termes de stratégie, c'était très intéressant. En plus, d'ailleurs, Chito Vera était totalement démuni par rapport à ça. Ils n'avaient pas quoi faire. Donc, il est toujours capable, je pense, de battre beaucoup de gens dans la catégorie. Je le vois pas, en revanche, titiller les meilleurs des meilleurs. Ça, c'est pour ça que je restreins un peu mon enthousiasme par rapport à ce combat. Mais de toute façon, là, dans la rencontre qu'il a, c'est contre Pedro Munhoz, qui, à mon sens, pareil, est un acteur qui est plus du côté vétéran de cette catégorie que du côté espoir et du côté potentiel title challenger. Pedro Munhoz, même si hein, il est toujours capable, son dernier combat contre Rivera était super intéressant, notamment avec l'utilisation très 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 intensive des deux côtés hein, des calf kicks. C'était assez marrant d'ailleurs, ils se sont échangés des calf kicks comme naguère nous échangions des cartes Pokémon à la récré, hein, tout à fait. Et mais c'était intéressant et c'est un mec, c'est un dur. Et il lâche pas, il est malin en plus de ça parce que il joue beaucoup sur le fait que bah, il a peut-être pas la vitesse ni l'athlétisme ni l'explosivité pour affronter des jeunes. Mais c'est un roublard. Par exemple, sa victoire contre Cody Garbrandt était très très emblématique de ce que je dis. C'est-à-dire contre Cody Garbrandt, il a vu très rapidement qu'il n'avait pas la vitesse de poing ni la vitesse de boxe pour faire face à ce mec-là. Mais juste, il a pris un pas de retrait, il le faisait venir à lui, et au moment où en fait Cody Garbrandt prenait un pas pour être en distance de frappe, c'est là qu'il enclenchait. C'est-à-dire qu'il anticipait la venue de Cody Garbrandt dans la distance. Et en fait, ça a marché. C'est comme ça qu'il a mis KO, parce qu'il l'a forcé à échanger avec lui selon ses termes, et il a pu choper un mec qui était donc plus jeune, plus explosif. Et enfin voilà, tu vois. Donc c'est pour ça, il a dû savoir faire lui aussi. Donc on a deux briscards, deux vieux briscards qui vont s'affronter. Je pense que José Aldo a un peu plus de bouteilles que Munhoz, mais néanmoins Munhoz, son jeu de calf kick et tout ça, enfin, il a de quoi sérieusement emmerder Aldo. Si Aldo il va un peu en manière paresseuse, juste en anglaise, il peut se faire dépasser. Si en revanche Aldo nous refait du Aldo qu'il a fait contre Peter Yan ou contre Chito Vera, parce que je trouve que justement l'amener au sol, le contrôle et tout ça, ça peut être très intéressant. Ouais, je pense qu'en 3 rounds, il peut le faire, quoi. C'est une possibilité.
C'est une possibilité. Place au main event. Derrick Lewis, Cyril Gane pour la ceinture intérimaire Heavyweight. Les deux hommes s'affrontent donc en main event de l'UFC 265 à Houston, Toyota Center, chez Derrick Lewis. On avait déjà fait la preview avec Poidomso, qui est disponible sur la chaîne YouTube et toutes les plateformes. Si vous nous écoutez d'ailleurs sur iTunes, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. On est aussi sur Spotify et j'en passe. Mais là, ça y est. Là, c'est l'heure des pronostics. Et là, Poidomso va se mouiller. Comme rarement.
Alors, on fait les pronos, là, ou directement? C'est vrai qu'on avait déjà fait la preview.
C'est hein, pour ça. Faisons les pronos. Sauf s'il y avait quelque chose que t'avais ajouté.
Non, je pense qu'on avait déjà fait plusieurs vidéos, en plus, dessus. Donc, je renvoie nos chers viewers à ces previews, qui sont, à mon sens, complètes. Autant que faire se peut, n'est-ce pas? Et pour le coup, bah, on va commencer les... Bah, alors, si on fait les pronos, je te propose qu'on refasse... On remonte par
exact.
La carte.
Et ben voilà, on va faire ça pour l'émission. On a quand même une question. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au main event. Là, en plus, on est plus de 200 en direct, donc formidable. Donc, question. Mais oui, question de Nico Ten. Pensez-vous que Gane peut succomber à la pression? Title shot, conférence de presse, Houston, premier main event numéroté.
C'est une possibilité. C'est ce qui rend le combat incertain. Si tu vois. Si... Honnêtement, je vais être transparent parce que bon, j'ai essayé d'être le plus mesuré possible dans la preview et dans l'autre preview. Je crois qu'on en a fait deux déjà, des previews sur ce combat. J'essaie toujours de peser le pour et le contre, de donner les voies de solution des uns et des autres. Si c'était un combat comme ça, on va dire sans le titre, avec une préparation un peu plus longue et pas à Houston, honnêtement, je la donnerais quasiment à 99% à Cyril Gane. Honnêtement, je pense qu'il y a plein de trucs qui sait faire que Derrick Lewis, il va être largué, quoi. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs incertitudes qui rendent le combat un peu plus chiant à pronostiquer. Il y a le fait que, bah, déjà, depuis son dernier combat, il s'est écoulé, quoi, un mois. Il y a eu un aller-retour en France. Enfin, tout ça, ça peut, il y a eu deux, du coup, je sais pas s'il cut, mais du coup, ça fait deux pesées à faire.
Non, il cut enfin, pas. Il cut pas, Cyril.
Heureusement, parce que ça pourrait jouer en fait contre lui. Donc voilà, donc ça rend le combat vraiment ça joue beaucoup plus en faveur de Derrick Lewis, qui a pas eu un schedule aussi chargé. Au-delà de ça, Derrick Lewis, il est chez lui, il a déjà combattu pour le titre. Ouais, il a déjà combattu pour le titre. C'est un mec en plus, je pense, d'un naturel qui se met pas trop la pression. Derrick Lewis, il a plus une attitude de salaryman par rapport à ses combats. Il en a déjà perdu à l'UFC, donc il s'en branle un petit peu. En fait, ça a pas beaucoup d'importance pour lui. Ça a une importance, on va dire, pécuniaire, mais ça, il y attache pas une importance que peut, par exemple, Cyril Gane peut y attacher parce qu'il est invaincu, parce qu'il arrive, parce qu'il a ses preuves à faire et parce que surtout, il doit pas perdre ce combat en fait également. Donc, je pense que oui. C'est une possibilité. Je peux pas savoir ça. J'ai pas ma boule de cristal. Je peux pas savoir s'il va craquer ou s'il va pas craquer. Néanmoins, je peux pas écarter cette possibilité. Ça peut arriver.
Polynomso, une autre question de Joe Kayak. Possible un enfumage de Derrick Lewis si le fight va à la décision, étant donné que c'est à Houston?
Ah, c'est possible parce qu'effectivement, depuis la prévue, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai revu ses combats contre Ilir Latifi et contre... Merde.
Blagoy Ivanov?
Blagoy Ivanov, le combattant de Sambo, c'est ce que j'allais dire, qui était un des premiers à avoir battu Fedor. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Blagoy Ivanov, une
Eh
petite
oui,
anecdote.
au
En
championnat du
2008,
monde. Eh oui.
ouais, c'est ça. Et qui d'ailleurs, Blagoy Ivanov, le mec a une histoire incroyable, hein, il a failli mourir, il s'est fait poignarder au cœur. Il est quand même revenu de ça, donc à mon avis, tu peux pas le mettre KO. C'est pour ça qu'il n'a pas été mis KO par Derrick Lewis, c'est que le mec, il est intuable. Bref, parenthèse fermée. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que
Bah, il est
c'était
sparring aussi
pas.
de Francis Ngannou. Ça ajoute aussi.
Non, mais le mec, c'est Wolverine, quoi, tu vois. Mais bon, bref. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'à mon sens, il les perdait ces deux combats, très clairement. Et bon, tu sais, comme c'est un peu une star locale et tout, et que bon. Voilà quoi, et une espèce de petit jugement à la maison, hein. C'est pas le seul combattant, hein, qui est dans ce cas-là. On se souvient naguère de l'époque où Bisping était absolument invaincu en Angleterre. Il y a plusieurs trucs comme ça quand t'as un combattant qui est très populaire, qui est chez lui. C'est pas nécessairement que les juges sont corrompus, mais c'est que je pense la foule, le fait qu'il y ait des réactions du public, ça peut jouer en fait beaucoup sur l'attention d'un juge. Je pense que c'est plus ça. Bon, après. Je suis pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins des juges. Il peut se passer autre chose également, hein, mais je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. C'est vrai que c'est possible. C'est un risque. Moi, je pense pas si Cyril Gane arrive à faire ce qu'il fait habituellement et à complètement contrôler les échanges pendant synchrone, je pense pas qu'on lui mettra une douille. C'est pas possible parce qu'en plus c'est lui qui va mettre la pression, c'est lui qui va faire reculer Derrick Lewis, qui sera contre la cage et tout. Donc à mon avis, je pense pas que ce sera possible comme ça. Néanmoins, si il y a des knockdowns, moi c'est surtout ça que je vois, c'est-à-dire que on peut arriver à un scénario où va y avoir un premier round d'observation, il se passe pas grand-chose par exemple, puis un round où il y aura un knockdown de Derrick Lewis, puis un round de contrôle par Cyril Gane, puis peut-être un autre knockdown de Derrick Lewis vers la fin, et là en revanche, même s'il gagne les rounds, même si en termes de significant strike il est devant, je pense que c'est possible qu'on lui barbotte la décision. C'est possible, c'est possible.
Question de Gones 21-04. Y a-t-il une différence entre Lewis et Rozenstruik dans le danger pour Cyril? Je vois pas ce que Lewis peut apporter de plus et donner un autre combat, potentiellement.
J'aurais tendance à être un peu d'accord. J'aurais même tendance à dire que Rozenstruik est plus complet que Lewis à bien des égards. Mais après, en revanche, Lewis, sur ce qu'il fait en termes de contre et de saisir l'opportunité, il te laisse aucune chance. Donc je sais pas si on peut dire que c'est exactement le même match-up. Il présente des armes qui sont très similaires tous les deux. Je pense qu'il est vraiment particulier avec Lewis, c'est que comme il fait pas grand-chose pendant tout le combat, il t'endort encore plus que Rozenstruik. Et il te met dans ce faux sentiment de confiance que tu as avec lui, que tu vas le terminer, que ben, et c'est pour ça qu'il arrive à surprendre bien des gens. Et d'ailleurs, la plupart de ses combats, il les perd jusqu'à ce qu'il les gagne, hein, Derrick Lewis. Donc je pense qu'il est plus traître à prendre que Rozenstruik. Mais oui, dans la menace, c'est à peu près la même menace qu'ils font peser, hein, les deux combattants.
Et Polydôme, selon, on va rentrer un petit peu plus dans les pronos. Pensez-vous que Gane, donc de Banks, pensez-vous que Gane peut gagner hors décision?
Ouais, c'est largement possible. Je pense que s'il arrive vraiment à installer son jeu de striking et qu'il se met à distance, il peut complètement saturer de coups Derrick Lewis et le faire plier. Ça m'étonnerait pas pour le coup.
On a eu Mystic Mac. Là, on va peut-être avoir Mystic Poly. Question de Carletto. Aurons-nous un joli combat?
Bah, ça dépend de ce qu'on dit par joli, parce que là, pour le coup, c'est un peu propre à chaque spectateur. Moi, moi j'adore voir Cyril Gane complètement contrôler un combat de A jusqu'à Z, comme il a fait contre Rozenstruik. Pour moi, ça, c'est une jolie performance. C'est un beau combat, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas un beau combat. Pour beaucoup de gens, c'était un peu chiant à regarder. Je comprends pas, moi, personnellement. Mais bon, après, je veux pas juger, tu vois. Genre, si les gens, ils veulent de la baston, ils vont s'emmerder sec. En fait, en gros, c'est comme si tu vas voir je sais pas, un film de Jacques Audiard, mais que t'attends un Expendable ou un Fast and Furious, bah tu vas te faire chier sec, tu vois. Mais en revanche, si t'y vas en attendant un truc avec des dialogues ciselés, avec une bonne ambiance et un bon scénario, bah là tu vas pas te faire chier sec. Bah, c'est pareil avec Cyril Gane, ça dépend vraiment de ce que t'attends. Si t'attends à ce qu'il arrive et qu'il mette une branlée et qu'il termine et qu'il arrache la tête façon Ngannou à Derrick Lewis au premier round, je pense que tu vas t'ennuyer un petit peu. Si en revanche tu as conscience de ce qu'il apporte sur la table, des risques qu'il prend et de la façon dont il contrôle le combat en striking, c'est très très rare de contrôler un combat uniquement en striking. Il y a très peu de combattants qui arrivent à le faire, hein. parmi lesquels on peut citer John Jones, hein, je lâche ça, c'est pas innocent. Et ben là en revanche tu vas prendre ton pied. Moi je prends mon pied quand je regarde Cyril Gane combattre. Je prends un petit peu moins mon pied quand je vois Derrick Lewis combattre. Voilà, si je peux donner mon opinion sur ça.
Oh là 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 là. Et Calf Kicks, oui.
Mais ça veut pas dire que j'ai raison. Là, pour le coup, c'est subjectif. Comment est-ce que tu apprécies un combat ou est-ce que tu n'apprécies pas un combat.
Mmh. Voilà. Et ben voilà, parfait, Poy Domso. Question de Calf Kicks. Il est fragile au corps, nous précise Calf Kicks, concernant Derrick Lewis.
C'est vrai, et je pense que c'est peut-être un truc que va rechercher la team Gane. Je pense que c'est un peu la voie qui a été montrée par beaucoup de combattants. Il y a plein de combattants qui ont exploité ça face à Derrick Lewis. Alors avec plus ou moins de succès, mais parce que tu vois, le problème c'est que tu prends un combat. Par exemple, Travis Brown a fait ça et ça a très bien marché jusqu'à ce qu'il perde. Volkov a fait ça, ça a très bien marché jusqu'à ce qu'il perde. Donc c'est là, c'est présent. C'est sûr que c'est une arme qu'il faut utiliser. Après, moi, je pense que c'est à faire, et c'est un truc que j'ai évoqué dans la preview. Je pense que c'est bien sûr une arme qu'il faut utiliser, mais c'est pas une arme qu'il faut utiliser sèche, ce que je veux dire à poil, sans rien derrière. Il faut l'armer, il faut la dissimuler, parce que je pense que ça fait partie des fenêtres d'opportunité de Derrick Lewis, de contrer Cyril Gane sur une technique en kick. Je pense que c'est ça qu'il va chercher à faire. Moi, je suis persuadé que ça va être son game plan. Il sait qu'il a affaire à un mec qui kick beaucoup, qui change beaucoup de garde. Et à mon avis, il aura étudié. Même si faut pas se laisser abuser hein, par l'image que donne Derrick Lewis. Hein. Derrick Lewis, il aime beaucoup donner cette image de nonchalance, genre je me prépare pas et tout. Mais néanmoins, s'il y a quelque chose que nous montrent ces combats, c'est qu'il se prépare par rapport à ses adversaires. Le contre qu'il a placé face à Curtis Blade, il avait préparé cette éventualité du shoot un peu paresseux de Curtis Blade. Moi, je pense qu'il va regarder en fait la façon dont Cyril Gane amorce ses techniques en kick, notamment ses changements de garde. C'est là-dessus généralement que Cyril Gane les amorce. Et c'est là où, à mon avis, il va peut-être tenter une avancée au moment où il y a un shift, au moment où il y a un switch, au moment où il y a une technique de jambe qui est utilisée pour essayer de choper Gane. Et s'il arrive à choper Gane dans cette position-là, avec un Gane qui est sur une jambe, donc il peut pas effectuer de retrait, il peut pas se sortir de danger, là, il y a un vrai risque. Donc, c'est une arme qui va être très efficace. Elle est là. Je pense pas que Derrick Lewis ait beaucoup de défense par rapport à ça. Néanmoins, ça va être aussi une opportunité pour Lewis. Donc, c'est vraiment un double tranchant. Je pense qu'il faut que ce soit utilisé par Gane, parce que ce serait dommage de s'en priver. Je pense que c'est par cette méthode que le finish arrivera s'il doit arriver. Mais il faut vraiment qu'il utilise plus de feintes, qu'il déjoue les attentes de Derrick Lewis. Il ne faut pas qu'il y aille en se disant bon, je vais faire mon shift et je vais faire mon middle, parce que là, à mon avis, le contre sera présent.
Question de Dismukes Junior, mon cher Poly Domso, qui a déjà répondu un petit peu, mais bon. Peut-être que tu as d'autres éléments à ajouter là-dessus. D'ailleurs, on est 230 maintenant sur le live, donc ça se passe sur Twitch. Si vous nous regardez ou nous écoutez en podcast après, n'hésitez pas, bien évidemment, on regarde les commentaires et on y répond ensuite. Ça nous donne de l'inspiration pour des potentiels podcasts. Poy Domso, jamais sous pression comme Cyril Gane. Alors donc, Dismukes, 5 semaines pour la récup, c'est un peu chaud, point d'interrogation.
Je suis d'accord. Moi, c'est pour ça que je suis moins certain sur ce combat. D'autant qu'il a pris des coups contre Volkov, notamment aux jambes, et je pense que c'est un peu la crainte que j'ai, si ça peut affecter sa mobilité. Bon, il n'en a pas pris beaucoup, mais il a quand même pris un round où il a pris beaucoup de low kicks, enfin il a pris plusieurs low kicks, et c'est des low kicks de Volkov, hein, c'est pas des low kicks un peu dégueu balancés comme ça au hasard, hein. Volkov, c'est un mec qui vient du Kyoku, il sait kicker, hein, c'est le genre de gars qui peut te péter des battes de baseball avec ses low kicks, ouais, c'est ce qui rend le combat incertain. Moi, je pense que là, ça va être tendu pour la reprise. Ça fait partie du risque qui a été pris hein, de la part de Cyril Gane.
Question de Gones. Est-ce qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise si Cyril combattait contre le top du top, Ngannou, Jones ou Miocic? Un peu comme Francis lors du premier title shot, avec un combattant trop unidimensionnel et un jeu au sol trop faible.
Oui, c'est possible. C'est possible. Contre ces mecs-là, Cyril Gane, il est exceptionnel, mais Francis Ngannou est exceptionnel, Jones est exceptionnel.
Poly Domso est exceptionnel.
mais oui, évidemment, s'il peut perdre contre ces mecs-là, évidemment.
On va prendre deux dernières questions. On va commencer par Kixer. Si Cyril Gane ne gagne pas de façon spectaculaire, est-ce qu'il va être légitime pour les Américains? Parce que c'est vrai que oui, on a souvent ce problème-là, mine de rien, assez récemment en tout cas.
Bah, il le sera, parce que de toute façon, il aura battu tous les gars qui sont potentiellement des title challengers. Parce que, il demeurait une interrogation avec Stipe Miocic, mais il semblerait quand même que cette voie soit en train de s'éloigner de jour en jour. Donc je pense que oui, s'il bat, parce qu'en fait, mettons scénario, on va dire, qui est pas un scénario catastrophe, parce que c'est un scénario où il gagne, mais qui gagne, on va dire, qui nous refait une Rosenstruck, une performance à la Rosenstruck. Certes, les gens vont pas être des masses emballées, ça c'est clair, parce que ce sera les mêmes. Je vois pas pourquoi les gens changeraient d'opinion. C'est-à-dire ceux qui ont trouvé ça nul la première fois, ils vont pas soudainement se réveiller en se disant oh putain c'est exceptionnel. Non, ils vont dire ah ouais il est chiant, il a toujours le même style. Donc je pense que ça changera pas ça. Mais en revanche la chronologie et l'enchaînement des combats font que de toute façon il est incontestable le mec. Tu vois, à partir du moment où il balaye tous les mecs sans prendre de risques et sans être mis en danger, bah que tu le veuilles ou non, même s'il est pas si c'est pas la fiesta de le regarder combattre, bah de toute façon il s'impose. Donc moi je pense que la question se pose pas. Justement la prise de risque, elle est faite dans ce sens-là. Je pense que Gann a pris ce risque-là parce qu'il sait que de toute façon, s'il va par la voie, on va dire, normale, s'il attend qu'on lui donne des combats et tout, il va devoir ramer encore plus parce que justement, on pourra, tu vois, le mettre dans un agenda où on va dire, bon, bah, on va attendre encore un combat, puis on va attendre encore un combat, puis on va attendre encore un combat. Là, le fait est qu'il zappe tout le monde et qu'il prend la priorité, en fait, s'il gagne contre Derek Lewis. Donc, à mon avis, c'est pour ça que c'est toute la raison de ce combat-là. Et en plus, il sera champion intérimaire, donc... question ne se pose pas, quoi.
Money in the bank. Dernière question, mon cher Podium. So, donc, est-ce que Lewis de Shingerik, est-ce que Lewis prendrait le risque d'amener Cyril Gane au sol, sachant que Bon Gamin lui est bien supérieur dans ce domaine?
Ce serait marrant parce que je pense que personne ne le verrait venir, hein, ça, pour le coup. Je pense pas qu'il ait le niveau en lutte, mais il est pas mauvais, hein, Derek Lewis, justement, à partir du clinch pour faire des projections, des trucs comme ça. Enfin, il a suffisamment de force physique pour le faire, mais je pense qu'en fait, c'est plus une question de coût, et efficacité. C'est-à-dire que, à mon avis, Derek Lewis, il joue sur la corde raide avec son cardio aussi. Une des raisons pour lesquelles il arrive à gérer ses explosions, c'est qu'il les compte parcimonieusement, en fait, dans le combat. Et c'est pour ça qu'il fait presque rien la plupart du temps dans un combat. C'est-à-dire il attend, il fait quelques kicks sautés histoire de faire venir l'adversaire à lui. Il explose sur des techniques en contre, mais il compte ses techniques. Hein. Il gère son énergie parce que il peut pas, à mon avis, il peut pas faire 10 000 tentatives d'amener au sol et tout ça. Il va se cramer en faisant ça. Donc c'est pour ça que je pense pas que ce soit un game plan qui sera très efficace contre Gann. Après, en réalité, ça pourrait être une piste de progression pour Derek Lewis. Moi, je pense qu'en Grand Endpoint, par exemple, Derek Lewis, il est redoutable. Il fait flipper. Hein. Donc, quand tu te retrouves sous Derek Lewis et que lui, il peut te frapper, qu'il a son énergie, là, t'es mal. Hein. Donc, c'est vraiment... pourquoi pas? Peut-être que le viewer a peut-être décelé le plan caché de Derek Lewis. Parce que là, pour le coup, c'est un truc qui est tellement inattendu et qui serait très efficace, je pense, s'il arrive à le faire en une fois. Si en revanche il foire sa première tentative de takedown, je pense qu'il devrait abandonner ce plan-là, tu vois, honnêtement, parce qu'il en aura pas 3 ou 4 contre Gann.
Et bah voilà, mon cher Polydomso, bien, ça arrive à sa fin. Question: quand est-ce qu'on pourra sub à la chaîne? Ça arrive très bientôt, là on est un petit peu plus actif, et si vous avez apprécié cette preview sauce Polydomso, soyez rassurés, parce que désormais chaque lundi, en fin d'après-midi, il sera là pour décortiquer les plus belles cartes de MMA et de boxe anglaise, bien évidemment. Mon cher Polydomso, bon, on va se retrouver cette semaine à des horaires un petit peu différents. Oh, oui. Ah oui, les pronos. Mais oui, on n'a pas fait les pronostics. Oh là 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 là, quelle honte.
C'est le moment en plus qui est attendu par nos viewers, parce que généralement, c'est le moment où je me trompe.
Exactement. Non, mais oh là là, quelle honte. Alors, c'est parti pour les pronostics de l'UFC 265. On va y aller crescendo, vous le savez très bien. On se fait toute la carte?
Non, moi je fais juste ce dont j'ai parlé.
On commence par Manel Cap?
Yes.
Donc, eh bien, commençons. Donc, Manel Cap contre Audie Osborne.
Je vois un KO de Manel Cap au deuxième round.
Idem pour moi, d'ailleurs, oui. Oh là là, je manque à tous mes devoirs. C'est Los Pronosticos, les gars. Donc pour Los Pronosticos, bien évidemment. Oh là 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 là. Vous pouvez participer au concours de pronostics. Ça se passe dans l'espace commentaire de cette vidéo-là qui arrivera dans la soirée. Sur YouTube, vous pronostiquez et les meilleurs pronostiqueurs gagneront des lots Venom. Alors, on avance un petit peu. Karolina Kowalkiewicz contre Jessica Penne.
Je vais dire décision de Kowalkiewicz. Mais c'est un peu du c'est un peu du pile ou face cette histoire.
Pile ou face.
Non, mais je sais pas si Kovalkiewicz est encore dans le coup, en fait. Mm-hmm. J'ai une grosse hésitation au vu de ses dernières sorties. Mais bon, je vais quand même me dire que Jessica Penne, elle a pas une force de frappe exceptionnelle. Donc, à mon avis, ça devrait aller pour Kovalkiewicz.
Décision unanime, Kovalkiewicz, pour moi.
Ouais pareil, ouais, c'est ce que je pense.
Light heavyweight, Ederman contre Alonzo Menifield.
KO au premier round pour Menifield. Je pense qu'il va passer, Ederman.
Et ben voilà. Chips de pronostic également pour Menifield. Bantamweight, Vince Morales contre Draco Rodriguez. Attention, combat qui a été particulièrement décortiqué.
Ouais, bah je suis un expert hein, de ce combat-là. Hein. Là, je vais faire ça à pique-nique douille, c'est toile en douille, parce que là, j'ai pas de. Non, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, je connais pas les mecs. Donc, quand je ne sais pas, je ne dis pas.
Il ne dit pas, Polydom. Soit bien, on avance avec la lightweight Bobby Green contre Raphaël Fiziev. Bon, si vous avez suivi, vous savez un petit peu.
Ouais, je pense que ça va être soit KO troisième round, soit décision unanime large pour Fiziev. Ouais. Et j'en suis fort mari parce que j'aime bien Bobby Green. Mais bon, très honnêtement, je pense que c'est Fiziev time pour le coup.
Je partage ton avis. Moi, je mets KO de Fiziev au deuxième round. Début de main card, les gars. Ça y est, on y est. Song Yadong contre Casey Kenny.
Je vais dire Casey Kenny en décision unanime. Sur Song Yadong, je pense qu'il va bien installer son jeu, qu'il va faire mordre Yadong sur les fins. Après, Yadong a la possibilité de l'éteindre, mm-hmm. parce qu'il a le pouvoir de KO et il a cet œil pour les ouvertures. Mais Casey Kenny, il feinte beaucoup, il installe bien son jeu. Et Yadong, c'est un mec orthodoxe, il n'a pas vraiment de subtilité dans ses déplacements et tout. Donc, je pense que Casey Kenny devrait pouvoir s'en sortir.
C'est vrai que c'est compliqué ce.
Il est dur ce combat. Ouais. Ce combat est dur à pronostiquer.
Hein, allez, je vais dire Yadong par KO au premier round, même si je suis pas trop convaincu.
Ok.
Chez les strawweight, Tessia Torres contre Angela Hill.
Bon, moi mon cœur dit Angela Hill par KO, mais j'y crois pas une seconde. En fait, je pense que c'était Tessia Torres qui va gagner par split décision.
Oh là 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 là. Moi, je pense décision unanime pour Tessia Torres. Les gars, là, ça y est, on rentre dans le dur. Michael Chiesa contre Vicente Luque. 5 contre 6 chez les welterweight.
Ah, c'est chaud. Celui-là, il est chaud. Parce que je vois bien Luque, mais vraiment face planté Chiesa.
Pareil.
C'est vraiment... Ouais. C'est... Ouais, Vicente Luque par KO sur Michael Chiesa. Mais en réalité, pareil, tu vois, ça, c'est un combat qui est très tendu. Et je pense que si Chiesa arrive à passer ces moments de doute et qu'il est précautionneux dans son approche, il peut vraiment contrôler Luque. Ça m'étonnerait pas qu'il arrive à le faire, mais je pense qu'il va merder. À un moment donné, il va s'en mêler les saucisses et il va se faire contrer. Je pense que c'est là où ça va se jouer. Donc, je dirais KO fin de premier round.
KO fin de premier round. Allez, KO fin de premier round. Chiesa contre Luque. Je mets Chiesa par décision unanime parce que je ne veux pas que l'histoire s'arrête pour lui. Je ne veux pas que l'histoire s'arrête.
Mais au moins qu'il y en ait un qui le dise. Parce que moi, enfin, honnêtement, là, pour le coup, c'est l'un des pronos les plus serrés de la carte, je trouve.
Ouais.
Et ça ne me choquerait pas que ça se passe comme ça. Donc c'est bien que tu couvres cette éventualité-là.
Et la bantamweight Pedro Munhoz contre José Aldo. Malheur au vaincu, surtout s'il est brésilien.
Ouais. Aïe, c'est compliqué parce que là, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe et ce qui va probablement se passer. Je pense Pedro Munhoz par décision. Je pense. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas évoqué, c'est que José Aldo, encore plus, je trouve qu'il ralentit sur les rounds. Alors, c'est en trois rounds, ça c'est l'avantage. Il peut vraiment, tu vois, contrôler le truc et bien gérer. Mais Pedro Munhoz, lui, il ralentit pas en revanche. Et je pense que ça va faire deux rounds à un. Je pense qu'on va avoir un round où Aldo sera très fort, avec de beaux enchaînements d'anglaises et une belle percussion et un bon contrôle. Mais ensuite, Pedro Munhoz va revenir dans la baston avec notamment ses leg kicks qui vont, je pense, jouer, qui vont jouer dans, qui vont faire peser la balance. Donc Pedro Munhoz par décision pour moi.
Oh,
et ça me chagrine.
Je mets José Aldo, moi, par décision unanime parce que bon, hein.
Voilà, ça c'est bien ça.
Allez. Maintenant, place au main event. C'est sans surprise, bien évidemment. Vous vous y attendez. Cyril Gane contre Derrick Lewis.
Alors, est-ce qu'on parie Derrick Lewis pour...
Non. Bon gamin all day, every day.
Ouais, je pense aussi. je pense aussi.
Mais comment Polydome ça
Décision unanime. Décision unanime parce que il est prudent Cyril Gane. Mm-hmm. Je ne vois pas, tenter absolument d'accélérer contre Derek Lewis.
Bah moi, TKO, Cyril, quatrième round. Voilà, on a fait le tour, on a fait les pronos. On se retrouvera dans la semaine sur Twitch à des heures un petit peu diverses et variées. Mais ce week-end, samedi, 22h. Vous serez là, la pression commencera à monter. Ben on sera là avec Polydomso au studio et avec Big Ben pour prendre vos dernières questions sur l'UFC 265. On reviendra juste du resto, donc si on pique du nez, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Mon cher Polydomso, big shout out à my sweet, be my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis Venom, partenaire de l'UFC, partenaire de la sueur, vous connaissez la musique. Ben voilà, c'était une première, j'espère que ça vous a plu, j'espère que Polydomso a apprécié.
Ouais, cool.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.